Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Des collants noirs, des gants blancs et des justaucorps de couleur. C'était le costume des frères Jacques que leur avait confectionné Jean-Denis Malclès. Le vert, c'était André Bellec. Le jaune, son frère Georges. Le rouge était pour François Soubéran et le gris-bleu, c'était Paul Touraine qui le portait. Paul Touraine, qui s'est éteint le 20 novembre 2016 à Montréal, était le dernier survivant du célébrissime quatuor vocal. Ténor du groupe, dont il réglait également l'éclairage, Touraine exerça aussi son talent dans l'art photographique. En 2005, alors que sortait le DVD Anthologie des frères Jacques, à la parution duquel il avait largement participé avec Pierre Tchernia, Paul Touraine était sur France Culture, l'invité d'Olivier Barreau. Pendant une heure, et en chanson, on revivait avec lui l'histoire des frères Jacques. Une aventure commencée au lendemain de la guerre en 1946, qui dura jusqu'en 1982. Paul Touraine, des frères Jacques, dans Vive les fantaisistes, une émission proposée par Olivier Barreau en 2005.
Bonsoir à tous. Je crois qu'il est inutile que je vous présente Paul Touraine, notre ami à tous, le vôtre, le mien.
Bonsoir.
Celui de tant de spectateurs de par le monde depuis tant d'années, et qui, bien qu'il ait pris la retraite, qu'il a l'heure de la scène depuis un peu plus de 20 ans, les frères Jacques, vous ne me contredirez pas, ne nous ont jamais quittés. C'est une histoire admirable, vraiment, dans le spectacle français. Et je ne dis pas dans le musical ou dans la chanson, je dis bien dans le spectacle, puisque les frères Jacques, c'est à la fois l'art dramatique, le mime, la danse, le chant, voire la prestidigitation, c'est-à-dire un mélange unique, sans précédent et sans successeur d'ailleurs, qui est leur invention, leur talent, et le mot est peut-être... Non, il n'est pas exagéré, j'allais dire leur génie. Pourquoi Paul est là ce soir et d'emblée ne nous en veuillez pas, nous sommes de vieux amis, nous avons toujours eu l'habitude de nous tutoyer et nous poursuivrons cette tradition ce soir. Pourquoi ce soir Paul Touraine? Eh bien parce que l'occasion nous en est donnée avec la parution en DVD, double DVD, d'un document fantastique, qui d'ailleurs nous a aidés dans la présentation de cette soirée. Vous allez en juger tout de suite et vous avez repéré un écran sur le plateau. Un double DVD donc qui contient à la fois une anthologie très substantielle du travail des frères Jacques entre 1945 et 1982 à peu près, c'est-à-dire l'étendue de leur carrière, et par ailleurs un long entretien documenté absolument passionnant entre Paul Touraine, le maillot gris, mais j'ai pas besoin de vous le dire, et Pierre Tchernia. C'est un élément de, à la fois d'archives, de réflexion, c'est aussi vraiment un document de travail, c'est-à-dire qu'on apprend avec en particulier le DVD consacré à l'exercice du métier, on apprend ce que ça a été, que leur travail, tellement mystérieux pour les spectateurs, puisque personne ou presque n'a assisté à la préparation de ces chansons. Donc l'occasion nous était donnée de converser tous ensemble avec le plus jeune du groupe, avec Paul Touraine, qui est ici avec nous. Et l'occasion étant exceptionnelle, pour nous tous ici à Nîmes, on s'est dit qu'on allait essayer à la fois de vous faire écouter des choses, comme je le fais à l'accoutumée, et d'une façon qui d'ailleurs inclut presque toujours les frères Jacques, mais que pour une fois, puisque DVD il y avait, il fallait que l'image fut présente au cours de cette soirée. D'où la présence de ce grand écran et le fait que dans le programme que vous avez entre les mains, qui sera respecté, dirais-je en gros, la provenance des chansons est soit strictement sonore, soit audiovisuelle. Voilà ce que je voulais vous dire à titre liminaire et signifier une fois de plus à Paul, qui le sait bien, que ça n'est pas sans une certaine émotion, comme on dit dans les banquets radicaux socialistes, que je prends la parole en ce beau jour, parce que pour moi comme pour vous, les frères Jacques, c'est plus que les frères Jacques. Est-ce que tu pourrais, à titre liminaire et avant qu'on ne vous retrouve par la voix, par le geste et par l'esprit, est-ce que tu pourrais nous rappeler Dans quelles conditions les quatre gamins que vous êtes, âgés d'une vingtaine d'années, un peu plus, vous retrouvez au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale pour former ce qui va devenir le groupe que nous aimons tant?
Eh bien, nous nous sommes retrouvés en 1945 au sein d'une association de culture populaire. Il y en avait plusieurs qui fleurissaient à cette époque-là, qui s'appelait Travail et Culture. Moi, je suis rentré et j'ai trouvé déjà en poste André Balek, qui a été à la formation des frères Jacques. C'est lui qui en a eu l'idée et qui est venu me trouver. Et comme j'avais fait un peu de musique, je dirigeais des chorales, il est venu me trouver et il m'a dit: veux-tu faire partie d'un groupe de un quatuor vocal que j'ai envie de monter? J'ai déjà comme élément, j'ai mon frère qui a déjà chanté avec moi pendant l'occupation en zone sud, et puis François Soubéran qui m'a été envoyé par Yves Robert, qui lui ne voulait pas chanter, voulait faire du cinéma, et on est trois. Il nous manque un ténor, il nous manque un autre. Toi t'es ténor, ça fait l'affaire, est-ce que tu en es d'accord? Et voilà comment ça s'est fait au printemps 1945.
Alors l'une de vos premières chansons dans ce groupe qui se forme fait encore une fois de jeunes gens. Soubéran, dont tu viens de parler, c'est le grand rouge.
Oui.
Georges Bellec, c'est le petit jaune. André Bellec, c'est le moyen vert. Et le gris bleu, c'est toi. Pourquoi l'entrecôte? D'où vient cette chanson qui est d'emblée la marque de votre travail?
Ça n'a pas été notre première chanson. Non. On a, quand on s'est connus, on a chanté, on a étalé ce qu'on savait. C'était des chansons de route, des chansons de feu de camp, des chansons de folklore, etc. Mais on est resté comme ça pendant 7-8 mois, et lorsque Jean-Pierre Grenier et Olivier Husneau ont voulu former la compagnie Grenier Husneau, ils sont venus nous trouver et ils nous ont dit: voilà, on monte une compagnie, il y a des danseurs, des comédiens, etc. Vous serez les chanteurs, les musiciens. Pierre Philippe est un pianiste, va nous accompagner à faire de la musique. Et Jean-Denis Maltès a dessiné des costumes, et à partir de ce moment-là, ils nous ont demandé de chanter les chansons de notre répertoire. Ils ont dit: oui, c'est un peu désuet, c'est pas très doux, vous n'avez pas des chansons drôles. Et Georges Bellec a dit, qui était peintre aux Beaux-Arts, nous a dit: bah, si, il y a une goualante qui s'appelle L'Entrecôte, dans tous les ateliers on chante ça, c'est drôle. On a pris cette chanson, on l'a montée avec le costume que Jean-Denis Maltès avait dessiné pour toute la troupe, et c'est comme ça qu'on a monté la première chanson mise en scène. Donc, début 1946.
L'Entrecôte.
Dans l'atelier qui bourdonne comme une ruche, la pauvre Lisette sanglote en travaillant, car son grand-père est mort de la coqueluche. Elle reste seule pour nourrir 5 enfants. 10 petits pieds réclament des chaussures, la neige tombe, il doit sûrement faire froid. Tout en cousant pour les riches créatures, la petite main s'en frissonne et ses doigts. Et dans son estomac torture la faim. Elle sent que grandit la peur du lendemain. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle travaille pour les gens de la haute et qu'elle fait les robes pour le beau monde. Et le soir, consciencieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. 1, 2, l'entrecôte. Mais un beau jour, comme elle était jolie, un beau jeune homme, un placier en tissus, lui acheta dans un coup de folie une belle robe avec des fleurs de sus. Elle voulait pourtant rester honnête, mais il lui dit qu'il avait de l'argent. C'est pour cela que la pauvre Lisette se sacrifia en songeant aux enfants. Tous les soirs, désormais, par les soins du placier, les petits estomacs furent rassasiés. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle a commis son initiale faute, qui la rabaisse au rendu de mi-monde. Et le soir, consciencieusement, si elle offrait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte, l'entrecôte. Comme son amant était d'humeur changeante, il la plaqua pour aller au Brésil. Alors du vice, elle descendit la pente, et de son corps, elle fit un outil.
Mais dans son cœur, elle songeait à ses frères, qu'elle sauvait d'un geste machinal, pour éviter qu'ils soient dans la misère. C'est effrayant ce qu'elle se donne du mal. N'imitez pas, fillette, cet exemple maudit. Vous seriez pour le monde un objet de mépris. Acheter notre gourde qui nourrira les chères bêtes blondes, qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux hôtes et qu'elle devint la femme à tout le monde. Et dans la nuit, pieusement, si elle fait du supplément, c'est pour le coup acheter notre gourde, notre gourde.
Ce document est extrait d'une émission réalisée par Marcel Bluval, oui, en 1979, c'est-à-dire peu de temps après que vous ne preniez la décision de vous séparer. Vous avez vu que les couleurs ont tenu à peu près le coup, les couleurs vidéo. À ce moment-là, la vidéo est loin d'être le numérique, le système numérique qui maintenant prévaut. C'est néanmoins extrêmement précieux. Alors justement, on parle des couleurs et du fameux costume dû à Jean-Denis Malclès, qui, entre autres contributions à l'art dramatique, a été le décorateur de presque tous les spectacles de Jean Anouilh, mais pas seulement. Oui. Comment a-t-il eu l'idée de ce costume faussement simple, d'ailleurs, qui est le vôtre ?
Il avait habillé tous les gens de la compagnie Grenouille-Schnoux avec des collants du bas. Et il avait laissé le haut libre, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre une veste, une chemise, un tricot, etc. Les femmes pouvaient mettre un chemisier, Et pour les chanteurs, il a décidé de les habiller en collant de bas en haut ou de haut en bas, comme vous voulez. Et puis, avec des couleurs qui étaient légèrement différentes de ça. C'est-à-dire qu'on était bleu et noir et bleu, et mauve et noir et mauve. Et puis, on avait un collant qui arrivait dans les entrejambes, là. C'était pas très flatteur. Bon, on a eu quelques remarques, et ils ont décidé, avec Georges Bellec, qui est de chez nous, qui était peintre, de remonter le collant noir jusqu'en haut pour estomper tout ça et de mettre une espèce de petite pointe, ce qui signifie un petit gilet, et puis de mettre quatre couleurs différentes. Puis après, de rajouter les gants, parce qu'on n'avait pas de gants au début.
Oui, les gants dont tu parles d'ailleurs très à loisir dans le DVD dont je parlais, parce que c'est vraiment c'est un élément beaucoup plus important qu'il ne le semble. D'ailleurs, vous allez en juger très vite. Ce qui est admirable dans le travail des frères Jacques, c'est évidemment la mise en scène, c'est-à-dire cette façon constamment renouvelée de situer une intrigue, une mélodie dans un univers qui est par ailleurs porté par le travail admirable effectué sur la lumière et qui fait alterner la sobriété la plus totale, la plus dépouillée, et quelquefois l'artifice, les gadgets, les idées, les innovations scéniques les plus ébouriffantes. Nous allons réentendre pour la xème fois, mais nous ne nous en lasserons jamais, Barbara, qui est, comme chacun sait, une chanson écrite par Jacques Prévert, avec une musique admirable également de Joseph Kosma. Et j'ai souhaité qu'on la retrouve ensemble, parce que le filmage par Marcel Bluval fait bien apparaître la sobriété nécessaire à un texte aussi âpre que celui de Prévert, et par ailleurs à une mélodie aussi chantante, aussi harmonieuse que celle de Joseph Kosma. Voici donc Barbara.
Barbara, toi que je ne connaissais pas, toi qui ne me connaissais pas.
Rappelle-toi, rappelle-toi quand même ce jour-là, n'oublie pas.
Un homme sous un porche s'abritait et il a crié ton nom, Barbara. Et tu as couru vers lui sous la pluie ruisselante, ravie, épanouie.
Et tu t'es jeté dans ses bras. Rappelle-toi cela, Barbara.
Et ne m'en veux pas si je te tutoie. Je dis tu à tous ceux que j'aime,
même si je ne les ai vus qu'une seule fois. Je dis tu à tous ceux qui s'aiment, même si je ne les connais pas.
Rappelle-toi, Barbara, n'oublie pas cette pluie sur la mer, sur ton visage heureux, sur cette ville heureuse,
cette pluie sur la mer, sur l'arsenal, sur le bâton d'Ouessant.
Maintenant, sous cette pluie de fer, de feu, d'acier, de sang.
Et celui qui te serre dans ses bras amoureusement,
est-il mort, disparu, ou bien encore vivant?
Oh Barbara, il pleut sans cesse sur Brest, mais ce n'est plus pareil, et tout est abîmé, c'est une pluie de deuil terrible et désolée,
ce n'est même plus l'orage de fer, d'acier, de sang, ou simplement des nuages qui qui disparaissent au fil de l'eau sur Brest et vont pourrir au loin, très loin de Brest.
Vous avez eu les plus grands comme compositeurs ou comme paroliers. On vient de parler de Cosma et de Prévert, mais on pourrait citer Serge Gainsbourg, Jean Cosmos, Francis Blanche, Boris Vian, enfin tout le monde. Comment cela se passait-il? Ces gens composaient à votre demande ou vous venez vous apporter des textes ou des mélodies?
Non, pas spécialement. Rarement, ils composaient en pensant à nous, mais en général, on allait prendre dans le répertoire qu'ils avaient composé eux-mêmes. Alors, il y avait un critère de choix. Il fallait que ces chansons, enfin, on verra par la suite, aient un début. Oui. Et ça soit comme une pièce de théâtre.
Tiens, une histoire.
Un début, une histoire, des verbes d'action, une action qui se déroule et arriver à une chute la mieux possible, je veux dire, la plus drôle possible, souvent. Voilà comment ça se passait avec les gens qui composaient, mais pas forcément pour nous. Rissé Barrier, par exemple, c'est l'auteur sur lequel on a pris le plus de chansons. Mmh. Parce que c'est arrivé à une époque, en 57, Mireille l'a envoyé chez nous. Et puis là, on a trouvé notre vie, on a pris beaucoup, beaucoup de chansons de Risset. Puis on en a enregistré pas mal. Et, un auteur prolifique, mais qui avait le sens de ce qu'on recherchait.
Ah oui, tout à fait. Barbara nous donne l'occasion de saluer la figure ô combien éminente dans la chanson française et le spectacle en général de Jacques Canetti, qui était à la fois un directeur artistique de maison de disques, un patron de cabaret, de lieux de spectacle, un véritable inspirateur, je crois, de la chanson d'après-guerre.
Oui, c'est le grand découvreur de toute l'écurie des variétés d'après-guerre. Ça va de Greco, Catherine Sauvage, pour parler des femmes, Montero, tout ça. Bon, après, Philippe Clay, les Forjac, les Barbux. Et puis, on a eu la chance de tombé dans ses pattes, il nous a aimés et il nous a présenté Prévert, Jacques Prévert et Cosma. Et c'est grâce à lui qu'on a pu enregistrer toute cette espèce d'anthologie, parce que on n'y croyait pas beaucoup, on était timide, on disait ce sont des mélodies, c'est pas de la chanson, trois couplets, trois refrains. Nous, on n'est pas. Si, je crois en vous, je crois en vous. On a travaillé beaucoup avec Joseph Cosma pour la musique, et puis voilà, bien nous en a pris parce que on a fait une belle anthologie de Jacques Prévert.
Oui, certes. Les gants, d'où ça vient, qui en a eu l'idée, pourquoi pas à main nue?
C'est venu tout de suite au début, le costume. On a trouvé qu'on était un petit peu nus. On a dit à Malclès, écoute, faudrait mieux mettre des gants. Et l'idée est venue de Georges Bellec. Ça serait bien. Puis avec le gant, je disais, le gant, c'est un accessoire. En plus des capes, des tresses, des parapluies, des petits, des grands, etc., des faunés, etc. C'est un accessoire. On peut tout faire avec. Je veux dire, d'abord, on peut signifier l'interrogation, la provocation. On peut faire des oiseaux, on peut faire des poissons, on peut faire les vagues de la mer, on peut faire des goélands, etc., etc. Et c'est en fin de compte, on s'en aperçoit pas, mais c'est très utile dans ces rôles-là.
Nous sommes dans les années 60, période extrêmement féconde. Vous êtes en tournée une grande partie de l'année à Paris et dans l'ensemble des villes de France le reste du temps. Vous n'arrêtez littéralement pas et vous renouvelez constamment votre répertoire en faisant en particulier appel à votre ami Rissé Barrié, dont tu as cité le nom tout à l'heure. On va écouter Stanislas. Rissé Barrié, c'est quelqu'un qui, d'une certaine manière, aurait presque pu faire partie de votre groupe.
Ah, exactement. C'était le même personnage. On ressentait les mêmes choses. Chaque fois qu'il écrivait une nouvelle chanson, il venait nous en proposer, enfin, ou deux ou trois, avec Bernard Leloup. Oui. Et par tradition, et puis par passion, je veux dire, on en prenait une ou deux à chaque fois.
Dont Stanislas, donc, de Bernard Leloup, effectivement, de Rissé Barrié, d'autres encore, que nous allons découvrir dans une version particulière du point de vue de la coloration.
C'était en hiver et déjà tombait la nuit. Quand elle arriva, il lisait Paul Géraldine. Elle lui dit bonjour en soulevant sa voilette. Et sur son nez fit voltiger sa houppette. Adorable sous les plumes de son chapeau, elle frissonnait dans un manteau de slow. Il se pencha pour baiser sa main opaline, mais lorsque ses lèvres se firent plus câlines, en soupirant, elle murmura d'une voix lasse, oh, n'insistez pas, Stanislas. Il la fit asseoir sur son beau divan chinois. La 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 la, tout contre moi. Sa peau de satin. Copain, elle avait gardé ses plumes et son chapeau, mais déboutonné le manteau de slow. Ses yeux plongés dans ses yeux couleur d'ambre gris, elle protesta, je suis affreuse aujourd'hui. Oh non, quelle audace, non. N'insistez pas, Stanislas. D'une voix douce, elle lui fit une proposition. Faisons, voulez-vous, une partie de Mahjong? Mais bientôt le vieux coucou sonna quatre fois. Effarouchée, elle quitta le divan chinois. Elle remit en ordre ses plumes et son chapeau. Et reboutonna le manteau de Stracon. En la suppliant, il la reprit par la taille. Elle se dégagea en lui disant bye bye. Seul comme un idiot, je me suis vu dans la glace. N'insistez pas, Stanislas. Oh non! N'assistez pas, Stanislas.
Sans les trois autres, je peux rien faire. Alors, voilà où j'en suis réduit. Je suggère, c'est tout.
Oui, c'est très bien. Ça nous enchante en tout cas. De la même époque à peu près, une chanson de quelqu'un que nous réécoutions ensemble l'autre jour, alors que nous ne savions pas encore que tu serais des nôtres. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 mois, je vous avais fait écouter, et même réécouter d'ailleurs, Adélaïde de Jacques de Broncard, qui est une chanson que j'ai toujours adorée, et à laquelle les frères Jacques ont donné vraiment une résonance particulièrement tragique, particulièrement émouvante. Le même de Broncard était une valeur sûre, un espoir de la chanson française au début des années 60. Il a disparu, hélas, prématurément, non sans nous avoir laissé, sans leur avoir laissé, la chanson que je viens de citer, et puis une autre extrêmement drôle qui s'appelle « Les Barbouzes », à laquelle je vous suggère de prêter une attention particulière, notamment en ce qui concerne les paroles. Parce que « Les Barbouzes », ça se passe à l'époque de l'OAS, sous le général de Gaulle, au début donc des années 60, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une chanson quelque peu subversive et en tout cas très ironique.
Oui, oui. Comme je le disais cet après-midi, on aimait bien figurer les mauvais garçons. On avait ce petit côté avec Fredo, les faux monnayeurs, le faux bien convive, les perceurs de coffre-fort. On adorait faire les voilà. Et là, c'est une chanson justement sur des types qui cognent sur ces garçons-là. Et c'est pour ça qu'on a fait une espèce de parodie des Barbouzes. On les a. C'est comme à Guignol, je veux dire, on a tapé dessus un peu, mais avec plaisir.
Les Barbouzes.
Extrait de notre série Les petits métiers de Paris de Jacques de Broncard, Les Barbouzes. On n'est pas des flics ordinaires. On ne colle pas des contraventions. On ne fait pas la chasse aux gangsters. On ne catéchise pas les blousons. La police, on est les perles, vous. À côté de nous, même Scotland Yard. À l'air d'un ramassis de tocards, la PJ fait franchement tartouze. Gare au bar. Manchette en nickel. Faut dire qu'on marche au steak tartare et qu'on ne carbure pas au vitel. Pour la gauche, j'ai une préférence. Je m'en sers dans les grandes occasions. Ouais, ouais, ouais. Dis surtout pas ça au patron. C'est un type qui est plutôt vieille France. Gare au bas, gare au bas. On abuse. On connaît les langues étrangères.
Hans Weidrein.
On n'est pas obtus.
À Munich.
À Lévi-York. Au Caire. Comme ça, on passe inaperçu. Remarquez pour qu'on s'en souvienne. Qu'on ne mélange pas les baratins. Quand on nous masse tous les matins, on est assis sur la boîte crânienne. Gare au bar, gare au bar, au labousse. On escorte les hauts personnages, principalement les présidents. On a un œil sur les parages, et de l'autre on ne quitte pas le client. On mène nos pieds dans tous ses pas. On mène nos pieds dans tous ses pas. C'est tout ceci, ne nous trouve pas sous les jupons de son épouse. Gare au bar, gare au barbouze, au barbouze. Ce qui nous manque, c'est les demoiselles. Sur ce plan-là, on les prive. Pas de chance, le patron nous appelle. Chaque fois qu'on pourrait consommer. Alors après 50 servis, va
passer dans de telles conditions. Souvent dans l'eau où nos façons des transformations s'accomplissent.
Garonda, Garonda,
On aimait bien démystifier tout ça.
Oui, voilà. Je veux dire que je me souviens de ce que vous faisiez sur scène au moment de la transformation que vous avez découverte. C'est vraiment quelque chose d'admirable. Grande veine comique chez vous, en même temps que veine tragique, ce qui fait le prix de votre œuvre, puisqu'on l'a vu tout à l'heure avec Barbara, on est vraiment dans quelque chose qui ressortit à la tragédie, à l'incompréhension, au drame, à la guerre, enfin tout ce qui a hanté Jacques Prévert en particulier. Et puis cette capacité qui est la vôtre de passer à la franche comédie, comme à l'instant dans Les Barbouzes, ou à la même époque dans une chanson non moins réussie, un peu moins connue mais vraiment tordante, qui s'appelle Le Twist Agricole. Déjà l'association des deux mots est séduisante. C'est une chanson d'André Pop pour la musique et de Jean-Claude Massoulier, un autre de vos complices réguliers, pour les paroles.
Le
rugby, c'est Massoulier. Oui, on y vient juste après. Et puis quelques autres encore de Massoulier.
Oui, me souviens.
Peu importe. Alors là encore, prêtez une attention soutenue, si vous le pouvez, aux paroles du Twist Agricole. C'est un truc insensé. Vous allez en juger tout de suite.
Si tu as remarqué, la Marie, Elle n'arrête pas de danser toute la soirée, toute la nuit, parce qu'ils se la repassent l'un à l'autre, ils se reposent en jouant du biniou, qui est de la vielle. Oui. Et la Marie, elle danse tout le temps, tout le temps.
Il y a un rythme extraordinaire dans cette chanson. Hein, un tempo extraordinaire.
Oui.
Alors, un tempo plus ralenti, mais non moins efficace, dans une chanson du même Jean-Claude Massoulier, alors qu'est une de vos plus célèbres, la chanson Sans Calcium. Nous en avons une version avec image, une version DVD, à mon avis, absolument irrésistible. La musique est de Maurice Blanchot. C'est une chanson de 1968 et on a laissé l'introduction de la chanson par les soins d'André Bellec, ainsi que quelques plans sur le pianiste Hubert de Gex. André Bellec, l'homme en vert, le fondateur du groupe, celui qui le premier en a eu l'idée avec son propre frère Georges, André Bellec avait coutume d'annoncer ou de désannoncer, mais pas de manière systématique dans vos spectacles.
Ah, toutes les chansons étaient annoncées. On avait le respect des auteurs et des compositeurs à cette époque-là. On annonçait d'un tel et d'un tel.
Eh bien, c'est ce que nous allons voir faire à l'instant pour la chanson Sans Calcium.
Claude Massoulier, Maurice Blanchot, chanson Sans Calcium.
Et oui, la chanson sans calcium. Donc, vous avez commencé à 5 et vous avez fini à 5 puisque vous avez toujours affirmé que les frères Jacques, c'était vous 4 plus le pianiste. On a donc cité Pierre-Philippe qui a commencé et Hubert de Gex qui a terminé. Comment est-ce que tu caractériserais l'apport de l'un et de l'autre, sans établir de hiérarchie d'ailleurs?
Pierre-Philippe, c'était l'homme de la mélodie, Pierre-Philippe. Il composait des mélodies superbes, c'était un petit peu le poète. Et Hubert de Gex, lui, contrairement, c'était l'homme du rythme.
Oui.
L'homme du rythme, c'était un jazzman, il avait accompagné des jazzmen. Et quand c'est arrivé, au bout de 20 ans, au-delà de la mélodie, Hubert a ramené un coup de légèreté. Hein, on a chanté bon, chansons de Ricé Barrier, tout ça, d'Olly Vincent, tout ça. Et il est arrivé, il était plus jeune que nous, et il nous a redonné une petite jeunesse, si on peut dire.
Oui, bah si, effectivement. Quand on le voit, on considère besoin. Effectivement qu'il a très bien travaillé. Nous sommes dans ces années que le public ne connaît pas encore comme devant être les dernières. Et ça va être pour beaucoup de vos amis, de vos fidèles, de vos supporters du monde entier, un déchirement d'apprendre que vous songez à mettre un terme à cette carrière. Nous sommes dans les années, à la fin des années 1970, donc, et est-ce un beau jour ou est-ce au long de conversations que vous avez pendant ces tournées, pendant ces soirées, tous les quatre, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, ou pas tout d'un coup, vous avez pensé que l'aventure devait s'arrêter un jour?
C'est un petit bilan, une petite réflexion. Mmh. On s'est dit en 79, bon, ça fait tant d'années qu'on chante, est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup vocalement? Oui. Moi, d'abord, qui étais premier ténor, est-ce que je pourrais toujours ténoriser comme il faut? Est-ce que François Soubéran, le costaud, pourrait toujours porter 3 types sur ses épaules? Est-ce que, etc., etc. Est-ce qu'on trouvera toujours du répertoire? Parce que c'était de plus en plus difficile, les auteurs étaient partis ou disparus, etc. Et on s'est dit, vaut mieux peut-être que, comme on n'est pas trop âgé, s'arrêter avant... comme disait Louis Jouvet, s'arrêter avant que le métier ne nous arrête. Mmh. Alors on a décidé, à la majorité, parce qu'il y avait toujours un vote chez nous, on était 5, il y en a 2 qui tiraient un peu, comme il y a eu la majorité, c'est ça la vraie démocratie, on a dit, mais on s'arrête. Alors on a goupillé un récital d'adieu avec les meilleurs succès depuis nos débuts. On a fait près de 6 mois à la Comédie de Champs-Élysées. On est parti parce qu'il y avait un spectacle qui attendait derrière. Et après, nous sommes partis faire une tournée de 2 ans. Et on s'est dit, au bout de 2 ans de tournée, on va aller en France, retrouver des gens qui nous ont aimés, dans les pays francophones particulièrement. Mmh. Puis après, on s'arrêtera. Quand on est arrivé là, Jean-Pierre Grenier, qui nous avait abrités au TBB à Boulogne, nous a dit, et puis qui avait fondé la compagnie Grenius, nous a dit, écoutez, le public n'a pas été satisfait entièrement parce qu'ils n'ont pas pu vous voir. Venez chez moi pendant 40 représentations, comme ça vous allez les retrouver, puis la boucle sera bouclée. Puis voilà comment on a terminé. Mmh. 40 représentations supplémentaires.
On va revenir à cette série de représentations de Boulogne-Billancourt, qui d'ailleurs n'ont pas été tout à fait les dernières, puisqu'il y a eu encore 2 ou 3 soirées au Casino de Paris. Je m'en souviens, c'était il n'y a pas si longtemps.
Au bout de 50 ans.
Mais du moins ces soirées ont-elles eu lieu. Et à Boulogne-Billancourt, vous interprétiez une chanson qui, elle aussi, figure parmi les classiques, « Les fesses ».
D'un sujet qui tient particulièrement à cœur.
Qu'est-ce que vous racontez là?
Êtes-vous donc tombé si bas que ça? Où ça?
Sur les fesses.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis quelques années, tous dont on entend parler, c'est
les fesses. Les fesses.
Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques. Il y en a des grosses, des petites carrées, il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser. Il y en a des basses, des déprimés, il y en a de la haute société. Il y en a
des belles à regarder, y'en a qui sont à éviter. Mais qu'on les aime, qu'on les aime pas, s'il y en avait pas, on serait pas là.
Le face mal, le face
mal. Bon, ben voilà une chose de réglée, hein. Si on n'a pas le passant où il fait un jour, y'a rien à tirer de ces gaillards-là. Passons à un autre sujet.
Le face.
Vous n'allez tout de même pas recommencer. Vous seriez pas obsédé des fois. Alors où est-ce qu'on s'envole? Y a-t-il rien qu'à ça que vous pensez?
Oui.
Y a-t-il pas autre chose que vous aimez? De quoi est-ce qu'on pourrait parler? Y en a des droites, y en a des larges, y en a même des qui sont en marge.
Le face mal.
Y en a qu'on aime, y en a qu'on tape, y en a qui brûlent toutes les étapes.
Le face mal.
Y en a qui voudraient en avoir plus, d'autres qui parlent pas, mais c'est tout juste.
Le face mal.
Y a pour la ville, y a pour le sport, d'autres qui passent la douane sans passeport, mais qu'on les aime, qu'on les aime pas. Si elle avait bon, ça le fera.
Le face.
D'accord, arrêtez ça là, ça va faire, hein. Ça va bien 5 minutes, mais le monde en est écœuré des fesses. Allez, enlevez-moi ces idées de vos têtes, on n'en parle plus.
Oh, voyons.
On a assez dit, on a assez vu.
Mais
si c'était que le monde, on n'en parlerait plus. Là, je commence à en avoir plein. Y'en a des mauves, y'en a des roses, rien qu'à les voir, ça fait quelque chose.
Le face mal.
Y'en a des durs, y'en a des molles, y'en a beaucoup de petites fofolles.
Le face mal.
Y'en a vraiment de toutes les sortes, y'en a qui tombent pour qu'on les porte.
Le face mal.
Y'en a des timides, des effrontés, d'autres qui vous regardent, l'air étonné. Mais qu'on les aime, qu'on les aime pas, si elle avait faux, c'est le fera.
Alors j'étais de ceux qui ont assisté aux représentations de Boulogne-Billancourt sur les fauteuils jaunes ô combien inconfortables de ce théâtre municipal. Il a été entièrement refait depuis. Et je peux attester, c'était il y a près d'un quart de siècle, je peux attester que lorsque, après un, deux ou trois rappels, vous quittiez le plateau, pour la soirée en tout cas, un nombre incalculable de spectateurs, et j'en étais, pleuraient à chaudes larmes, hein, vraiment, pleuraient à chaudes larmes, comme si une partie de leur vie s'était arrêtée ou s'était brisée. Et je suis certain que vous avez vous-même, tous les quatre, tous les cinq, ressenti la même émotion. Ça ne vous a jamais fait changer d'avis, cependant?
Non, jamais, non. Notre décision a été prise, non. Ben, nous aussi, on a quitté avec un petit pincement au cœur, et puis la larme à l'œil, je veux dire, malgré la fatigue de ces derniers récitals. Non, la décision était prise, on n'a pas regretté, on s'est remis dans une, on n'était pas trop pagé pour se reprendre une autre occupation.
Oui,
Georges était peintre et il peint encore. André Bellec, lui, était passionné de théâtre, il fait des études sur le théâtre. François Soubéran, céramiste, il est parti. 15 jours après, il était installé dans la Drôme en train de tourner des pots, hein. Et moi, j'ai repris mes appareils photo, je suis photographe.
Voilà. Oui. Enfin, il faut dire que tu as toujours été photographe, parce que...
Plus ou moins, oui.
Oui, parce que ce que le grand public ne sait pas nécessairement, c'est que s'il existe une mémoire visuelle, sonore et picturale des frères Jacques, c'est en grande partie grâce à toi. D'abord parce que tu adores la photo, et que tu adores l'archive, les souvenirs, les témoignages, tout ce qui entoure le spectacle, et pas simplement celui de votre propre carrière, mais que, assez curieusement, pour les trois autres... Ça ne comptait plus. Je veux dire que tu me disais que, au fond, ils s'en foutaient de conserver les pièces. Ça avait été leur vie, leur passion, leur métier. Mais que dans la mesure où toi, tu faisais fonction d'archiviste, au fond, eux s'en désintéressaient.
Mais ils s'en désintéressaient pas. Ils me laissaient faire. Ils savaient que moi, moi, j'étais très papivore.
Oui.
Et tout ce qui avait marqué Frère Jacques, tout ça, etc. Et comme toutes les archives, moi, j'avais près de 5 mètres cubes, là, c'est parti. Maintenant, c'est en dépôt à la Bibliothèque historique de la ville de Paris. C'est la ville de Paris qui les a rachetés, tout ça. Et ils ont tout ce qu'il faut. faux, tous les disques, toute la presse depuis 1945, les costumes, les lettres importantes, ils ont le principe, les accessoires, les bon, tout ça. Alors je pense que c'est bien d'avoir centralisé ça, de l'avoir conservé, puis de l'avoir laissé là en dépôt.
Est-ce que tu t'es enfin persuadé de cette évidence qui est que ce que vous avez fait ne ressemble à strictement rien d'autre?
Oui, il y a une certaine originalité, mais tous les groupes trouvent leur originalité de par l'influence, qu'on a derrière la tête, je veux dire, inconsciente. Mmh. Le quatuor, par exemple, le fameux quatuor, bon, oui. Ils ont trouvé le joint avec des instruments de musique, ils font Absolument. Des choses merveilleuses. Et puis, bon, les chansons plus biflorées, leur fiancée, les stars. Il y a beaucoup de groupes qui nous ont vus, qu'on a influencés, mais qui, à force de travail et d'originalité, ont trouvé leur créneau.
Est-ce que tu m'autorises à dire au revoir et merci? Merci, évidemment, ça je serai votre interprète, j'en suis sûr, si je dis merci à Paul Touraine. Mais est-ce que tu m'autorises à dire au revoir, peut-être avec un point d'interrogation, mais pour peu qu'on te le demande, est-ce que tu reviendrais?
Comme on disait dans La Belle Arabelle, adieu, ou plutôt au revoir.
À bientôt.
Au revoir, merci.
C'était Paul Touraine des Frères Jacques dans Vive les fantaisistes, une émission proposée par Olivier Barrault, diffusée la première fois le 20 août 2005 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.
He venido al desierto para reírme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Ah,
ah. Ahora sí. He venido al desierto para reírme de tu amor, que el desierto más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca me hiciste.
He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego cuando deja de amar. Porque el alma prende fuego cuando deja de amar.
Ay. Ahora sí. He venido yo corriendo y olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes, colibrí. He venido encendida al desierto pa' quemar, porque el alma prende fuego. venido encendida al desierto para quemar, porque el alma prende fuego.